musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Rotten.
Le sugar.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey, now I'm wild over honey child. Honey child's got me feeling fine.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel du Centre français des musiques juives. Depuis maintenant plus d'un an, nous voyageons dans ce monde ô combien passionnant des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et à une époque où le vivre ensemble est le thème récurrent de tout discours politiquement correct, il nous a semblé important de consacrer une série d'émissions à une des problématiques majeures de la vie juive, comment vivre ensemble avec sa mère ou sa belle-mère juive. Notre dernière émission était ainsi consacrée à la représentation de la mère juive dans la chanson yiddish. Et vous avez été nombreux à la suivre, les statistiques le prouvent. En effet, nous avons reçu depuis le mois dernier au moins 300 lettres anonymes avec des menaces de suicide si nous ne retirons pas nos propos très exagérés sur les mamans juives qui sont les plus gentilles du monde, ainsi que 500 appels téléphoniques de belles-mères se plaignant de leur gendre et 500 appels de gendre se plaignant de leur belle-mère. Malgré cette pression insupportable, nous avons décidé de poursuivre notre mission et notre émission en abordant ce soir la représentation de la mère juive dans la chanson judéo-espagnole. Et pour nous aider à passer ce cap difficile, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marie-Christine Borne-Farol, professeure des universités à l'INALCO et une des plus grandes spécialistes de la civilisation et de la littérature judéo-espagnole. Marie-Christine Borne-Farol, bonsoir.
Bonsoir.
Avant toute chose, pourriez-vous nous rappeler à nos auditeurs ce qu'on appelle précisément les judéo-espagnols et quelle aire géographique cela recoupe?
Alors, au moment après l'expulsion d'Espagne des Juifs en 1492, les Juifs d'Espagne partent dans plusieurs directions. Certains, vous le savez, vont au Maroc ou en Afrique du Nord en général, et ils fonderont une culture judéo-espagnole, et toute une grande partie est accueillie par le sultan ottoman dans les terres ottomanes. Et l'Empire ottoman à cette époque est extrêmement vaste, il couvre pratiquement la Méditerranée puisqu'il va de la Yougoslavie jusqu'à la Palestine, et donc l'Albanie, la Turquie, la Bulgarie, une partie de la Roumanie, la Grèce, la Syrie, le Liban actuel, donc, et l'Égypte, avec des grandes métropoles où se fixent les judéo-espagnols, comme Salonique, bien sûr, Constantinople ou Istanbul et Smyrne.
Est-ce qu'on a une idée de combien de personnes ça représentait à peu près?
Écoutez, par rapport au monde ashkénaze, c'est beaucoup moins. Hein, c'est toujours là où on compte en millions le monde ashkénaze. Le monde judéo-espagnol ne se compte qu'en centaines de milliers. Dans les estimations les plus hautes, on pense que on va à 450 000, 500 000 personnes sur l'ensemble de l'ex-Empire ottoman.
Ce qui est déjà quand même très important.
Oui.
Et donc, comme dans toutes les communautés juives, ces juifs d'origine espagnole, lorsqu'ils arrivent, emportent avec eux, dans leur bagage, un ensemble de chants, de chansonniers, et qu'ils pratiquent et qu'ils continuent à pratiquer, bien sûr en enrichissant, et on en parlera, ces chansons dans leurs différents pays d'accueil. Comme partout, les hommes et les hommes plus généralement à la synagogue et les femmes plus généralement dans le cadre domestique, chantent. Lors des fêtes ou d'événements particuliers, tels que le mariage, par exemple, on invitait des femmes, des chanteuses professionnelles, des cantaderas. Et vous corrigerez mon espagnol, vous n'hésitez pas, parce que voilà. Et le mois prochain, ce sera pire, nous aborderons les femmes dans la civilisation judéo-arabe, donc il va falloir que je travaille mon accent. En tout cas, ces femmes, ces cantaderas qui étaient invitées, possédaient un large répertoire de chants qui était lié aux différents événements de la vie, évidemment, naissance, mariage, décès, etc. Et ces chants appartenaient souvent à la catégorie des romances, qui, selon la musicologue Susanna Weicharak, sont des poèmes narratifs, donc qui racontent une histoire, assonancés, c'est-à-dire qui sont séparés en hémistiches, en l'occurrence deux hémistiches de 8 pieds. Et comme pour le reste de la musique judéo-espagnole, ils étaient généralement interprétés par une seule interprète, souvent une femme, sans accompagnement instrumental. Et seuls les chants de noces pouvaient être exécutés en groupe, voire voix d'hommes et femmes mêlées avec accompagnement de percussions. On voit qu'on est bien loin, en fait, de l'interprétation actuelle de ces chants par les artistes qui, aujourd'hui, se revendiquent de cette chanson judéo-espagnole. Marie-Christine Bornvarol, mais il y a quelque chose qui me perturbe un peu. On parle de romancero, mais on entend souvent, on voit aussi le terme de cancionero. Alors, quelle est la différence entre ces deux termes, entre le romancero et le cancionero?
Alors, le romancero, ça désigne justement tous ces grands poèmes narratifs qui sont plutôt l'apanage des femmes, je vais dire, et qui sont chantés plutôt par les femmes, mais sans aucune exclusive. Hein. On a des exemples de à Salonique, Abraham Yona, qui chantait aux fêtes et qui interprétait le répertoire. Les hommes comme les femmes peuvent les chanter. Enfin, tout le monde connaît tout le répertoire, même si celui-ci appartient plutôt aux femmes. Il s'agit plutôt d'un genre. Le romancero, c'est l'ensemble des romances, c'est-à-dire de tous ces poèmes chantés qui ont cette forme-là. Mais le cancionero, c'est un espace beaucoup plus vaste qui contient notamment un autre grand groupe de textes qui est la poésie strophique chantée, qui elle était l'œuvre des rabbins, d'écrivains, paraliturgiques, qui étaient performés en public, qui étaient chantés avec des morceaux qui étaient repris lors des fêtes. On a des coplas de Pourim, des coplas de Pâques, de Hanouka, des coplas hagiographiques, et on a des œuvres. Alors pour vous donner une idée, ce sont des œuvres considérables. Les coplas de Yosef Hatzadik d'Abraham de Toledo, qui sont datées du début du XVIIIe siècle, font 595 strophes. C'est la plus grande, mais il y en a beaucoup et elles étaient chantées. Et puis il y a aussi tout ce qu'on appelle les chansons lyriques, les chansons d'amour, des chansons grivoises, des chansons de taverne. On a aussi une adaptation au mode. On a des tangos judéo-espagnols, on a des rebeticos judéo-espagnols, etc.
Eh bien, je vous propose de faire une première pause musicale en écoutant une chanson qui ne fera pas 795 strophes, mais qui faisait quand même presque 7 minutes et que j'ai volontairement coupée. Donc, nous allons entendre La mala suegra, la mauvaise belle-mère.
La reina tiene dolores, no las puede soportar. ¿Cuál es tu? Pariendo en el saray de mi padre, que no tengo quien me mire como la reina mi madre, si me demande piedades. Vate, vate, la mil muera, a partir de tu madre, si es por el tu marido. Yo le do desayunares. Yo le do geni cansena, picho micos almorzare. Yo le do hierba al caballo, carne cruda al gavilán. Quedas en la buena hora, mi suegra. Van buena hora tu mil muera, en pasando dos, tres días. Al buen rey que arriba.
La mala suegra, la mauvaise belle-mère, dans une version qui nous est proposée ici par Susanna Weisscharak dans un CD qui s'intitule Traditional Sephardic Songs and Ballads. Une version d'ailleurs très proche, j'allais dire, du chant originel, puisque c'est chanté par une voix de femme seule ici. Mais Marie-Christine, que nous dit cette chanson? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter?
C'est justement une chanson tout à fait fondamentale. Elle raconte comment une jeune reine sur le point d'accoucher demande licence à sa belle-mère pour aller accoucher au château de son père. Et elle dit que personne ne va s'occuper d'elle aussi bien que la reine sa mère. Et alors que le jeune roi est à la chasse, la belle-mère, toute contente de récupérer son fils rien que pour elle et d'éliminer cette rivale sur son territoire, lui donne sa bénédiction pour aller accoucher chez ses parents et accueille son fils qui demande des nouvelles de sa femme, et elle lui explique que sa femme les a insultés et qu'elle l'a traité de putain et lui de fils d'un mauvais père. Alors le roi décide d'aller tuer et sa femme et le fils, puisqu'il s'agit forcément d'un fils qu'elle a de lui, et tout au cours du chemin, il va rencontrer d'abord des messagers qui lui annoncent la bonne nouvelle, ensuite le père, son beau-père. Personne ne l'arrêtera, sauf la mère de la jeune fille, de la jeune femme, qui est à la porte de la chambre et qui lui dit que ma fille ne se relève pas de cette couche si ce que vous dites est vrai. Et elle lui dit attention, jamais la belle-mère et la belle-fille ne se sont aimées. Mais le gendre et la belle-mère sont comme l'ongle et la chair, et ils s'entendent. Et alors, il change d'avis, il comprend que sa mère a exagéré les choses, et alors il pense à retourner la tuer, mais en chemin, évidemment, il va rencontrer un vieux sage qui va lui dire « Écoute, vivre avec père et mère, c'est une bénédiction, et tu dois totalement changer d'avis. » Donc en fait, ici, on a une situation très mauvaise où tout le monde est à blâmer. Hein. D'abord, cette jeune femme qui, au lieu d'accoucher dans sa famille d'alliance, retourne chez sa mère en disant on s'occupera mieux de moi là-bas. C'est-à-dire, en fait, elle retourne chez sa mère. Donc, elle soustrait cet héritier à sa famille légitime. Une belle-mère qui se sent légitimement insultée, mais qui, au lieu d'atténuer les choses, les exagère parce qu'elle y voit l'occasion d'éliminer une rivale. Et, ma foi, un jeune roi qui est à la chasse, au lieu de s'occuper de sa femme qui est sur le point d'accoucher dans une période donc très critique pour elle, et justement dans une période critique pour sa mère également, c'est-à-dire qui n'est pas là pour atténuer les choses et rendre les choses harmonieuses entre ces deux femmes. Donc, en fait, on a un dysfonctionnement général ici, avec des conséquences qui pourraient être totalement dramatiques.
Et on va voir tout au long de cette émission que ces relations mère-fille, belle-famille, belle-mère sont vraiment au centre de ce chansonnier judéo-espagnol. À noter que cette chanson a également pour titre La Reina Tiene Dolores, et ce qui est toujours très compliqué d'ailleurs dans ces chansons, mais c'est le cas aussi pour les chansons yiddish, c'est que souvent on trouve des titres différents pour une même chanson et parfois des airs différents pour un même titre, donc il faut retrouver ces petits. Et ces chansons aussi comportent de nombreuses variantes textuelles, puisqu'elles relevaient de la tradition orale et qu'évidemment, selon les pays, selon les terres d'accueil et selon même parfois les interprètes, il y avait des variantes. Avec Yitzhak Niborski, au cours de notre dernière émission, on avait vu que un nombre non négligeable de chansons yiddish avaient pour héroïne la mère. Est-ce que c'est également le cas dans le chansonnier judéo-espagnol, Marie-Christine?
Mais je dirais que non. On a beaucoup de chants qui concernent les femmes. Énormément de chants qui concernent les femmes, mais les femmes comme épouses, comme mères, comme fiancées, comme guerrières, comme adultères, et aussi comme mères. Mais ça n'est pas prédominant.
D'accord. Bah écoutez, je vous propose d'écouter un deuxième exemple musical, une chanson magnifique qui s'appelle La Madre Comprensiva, qui s'appelle également La Comida de la Mañana, qui est interprétée ici par David Saltiel. La Madre Comprensiva ou La Comida de la Mania par David Saltiel. Saltiel étant un nom assez typique, je crois, dans l'univers des Juifs de l'Empire Ottoman. Et je rappelle à cette occasion que nous centrons cette émission notamment et principalement sur l'Empire Ottoman, puisqu'il existait aussi dans les communautés judéo-espagnoles du Maroc d'autres chansons qui se rapprochent parfois de celles qu'on entend ici, et dans un langage un peu différent, je crois, le Raketia, et dont nous parlerons peut-être lors de l'émission prochaine. Donc, que nous dit cette chanson, Marie-Christine ?
Alors, elle a beaucoup de versions, cette chanson, et en fait, il s'agit là d'un cas très particulier, très douloureux et très critiqué, y compris par le rabbinat, dans la société judéo-espagnole, qui est le cas de la fille qu'on ne marie pas. Ça s'appelait Hija para la vejez, la fille pour la vieillesse, que l'on ne mariait pas et qui restait pour s'occuper des vieux parents. Et là, on a le cas d'une jeune fille qui a compris ce qui allait lui arriver et qui fait en quelque sorte une grève de la faim. Là, les arguments qui sont donnés dans la version de David Saltiel, c'est que le père a joué la dot au jeu et qu'il a perdu, son trousseau. Mais elle prend à partie sa mère et dans une autre version, la mère lui explique « Mais ma fille, pourquoi veux-tu tant te marier ? Les belles-mères d'aujourd'hui, elles sont extrêmement méchantes, on souffre beaucoup, les maris sont méchants, etc. » Et elle lui dit « Mais et vous, madame ?» tout en gardant la distance. C'est quand même une chanson là très populaire. C'est un air de la mer Noire, et un air traditionnel turc de la mer Noire, la musique.
Et qu'est-ce que vous voulez dire par mer Noire,
en fait ? Mer Noire, c'est l'Az, c'est la région l'Az, c'est un type de musique en Turquie, sur la côte de la mer Noire, qui a un style très particulier, avec des danses où on bouge beaucoup les épaules, et accompagné par un petit violon sec. Et voilà.
Donc la mère essaie de la dissuader en disant que sa belle-mère va être abominable.
Oui, c'est ça. Et elle lui dit, mais vous, madame, alors tout en gardant la distance quand même avec sa mère, puisqu'elle la vous voit avec la troisième personne, que je sache, vous avez fait l'amour avec mon seigneur, c'est-à-dire mon père. Alors, donc vous m'interdisez quelque chose que vous êtes permis. Et alors, elle dit, oui, mais ça, c'était une autre époque. Enfin, il y a véritablement là quelque chose là, qui ne va pas entre la mère et la fille. Mais c'est assez rare. Hein.
Vous m'avez dit tout à l'heure, hors micro, qu'il y avait même des histoires de pluie. Parfois, la fille qui voulait tellement se marier disait, puisque c'est comme ça, je vais rejoindre mon amant dans le puits. C'est pas le cas dans cette
chanson. Alors là, ce sont plutôt des romances, c'est-à-dire assez graves. Il y a une histoire comme cela où la fille dit, écoutez, mon père, j'ai vu s'approcher beaucoup de fiancés de cette maison, mais l'un, vous l'avez trouvé trop pauvre, l'autre était trop grand, l'autre était trop petit, l'autre n'était pas assez éduqué, je les ai vus tous s'éloigner, le temps passe. Alors j'ai pris les choses en main, j'ai trouvé moi-même un fiancé, il dort au fond du puits, cette nuit j'irai le rejoindre.
Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de cette émission, on a quand même l'impression que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement la mère juive qui est au centre de ces chansons judéo-espagnoles, mais également sa fille et sa belle-mère, et le mari qui est présent, mais peut-être souvent en filigrane. Comment peut-on expliquer qu'il n'y ait ainsi quasiment que des figures féminines dans toutes ces chansons ?
Alors, ce sont des chansons qui appartiennent, dans les chants qui appartiennent au romancero, par exemple. Il s'agit de chansons qui étaient chantées d'abord en toute occasion et aussi lors des mariages et aussi comme berceuses. Hein. Ça semble un peu bizarre, mais c'est aussi chanté aux enfants. Et en fait, c'est là pour avertir de ce qui se passe, en fait, pour avertir des dysfonctionnements. Et en fait, ça montre des situations dans lesquelles l'homme qui a la responsabilité de l'harmonie dans la famille, sur qui a tous les pouvoirs pour contrôler, atténuer les situations, les dysfonctionnements, ne joue pas son rôle ou ne fait pas ce qu'il doit faire. Donc il s'agit de chants d'avertissement.
D'accord.
De mise en garde.
D'accord. Et pourtant, on va entendre à présent une chanson où le père est bien présent, malheureusement même très et trop présent, puisque cette chanson traite d'un thème très douloureux, c'est l'inceste. Je vous propose d'écouter donc une troisième plage musicale, Del Gadita, qu'on appelle parfois Del Gadia.
Oh. altos caballeros, los que de mi pan comí.
Delgadita, interprétée ici par Marie-Thérèse Escribano dans un fort beau disque, Antigas Sephardis. C'est une chanson terrible que l'on vient d'entendre, Marie-Christine. Que raconte-t-elle et quel message symbolique transmet-elle ?
Alors, il s'agit d'une histoire d'inceste. C'est un père qui, à table, regarde sa fille. Alors déjà, la fille s'appelle Delgadilla, ou Delgadita, ça veut dire la maigrichonne. C'est une fille qui fait tout ce qu'elle peut pour ne pas attirer le désir de son père, puisque vous savez que la beauté féminine est synonyme de forme harmonieuse et rebondie. Malgré cela, son père s'adresse à elle et elle refuse et elle est horrifiée et elle dit qu'elle ne veut pas être la rivale de sa mère et la belle-mère de ses sœurs. Donc elle met sa mère et ses sœurs, pas dans la version que l'on a entendue là, mais dans d'autres versions judéo-espagnoles, ne pourront rien faire et ne feront rien et lui diront « Mais tais-toi donc, souffre en silence, car si ton père savait que nous intervenons pour toi, il nous couperait la tête et Delgadilla finira par mourir de soif, emprisonnée par son père. » qui tente de la réduire. Et là, on voit un petit peu l'impuissance d'une femme qui n'a que des filles. C'est-à-dire, il n'y a pas de fils qui ancre la mère au foyer et lui donne toute sa légitimité et permette d'exercer un contre-pouvoir contre la toute-puissance du père. C'est-à-dire, là, on voit un abus de pouvoir par un homme qui a tout pouvoir puisqu'il n'a que des filles.
C'est quand même une image terrible de cette société qui est quand même très très dure pour les femmes. Est-ce que c'est pas un peu exagéré ? Parce que il y a eu certaines femmes, il me semble rappeler, qui ont accédé à la reconnaissance et aux honneurs de leurs contemporains, comme Gracia Mendes au XVIe siècle.
Ah oui, mais il s'agit d'une veuve, n'oubliez pas.
Ah oui, alors quand on est débarrassé du mari, effectivement, ça, et quand alors, on est riche en plus, je crois,
voilà,
ça permettait
et,
de...
Et puis c'était une marraine, une banquière. Ça n'est pas du tout exagéré, faites attention, c'est bien au contraire une société qui n'est pas dure pour les femmes, parce que justement elle est très consciente de son organisation patriarcale, du fait que tout repose, qu'on est dans un système patriarcal où tout repose sur le père, le nom du père et la famille de sang. Et donc, il montre qu'elle elle est très consciente de ces dysfonctionnements. Le côté fragile de tout ça, c'est le sort des femmes, puisque les femmes, on les donne dehors, on les marie dans une autre famille, où donc elles ne seront plus protégées. La société judéo-espagnole, par toutes ses chansons, exprime le souci qu'elle se fait pour ces jeunes femmes, quels sont les dangers qui les attendent et comment les compenser. Et bien au contraire, il s'agit d'une société très harmonieuse et très stable, dans lequel les fils et les maris avertis auront soin de compenser ces dysfonctionnements. Et ces chansons sont là pour les avertir de ce qui est leur rôle.
Eh bien, à propos d'avertissement, nous allons écouter une autre chanson très connue qui s'appelle « Hija mi querida ». Qui parle de ce rapport étroit entre la mère et sa fille, et je me suis amusé à faire un montage de cette chanson par différents interprètes dont je donnerai les noms dans quelques instants.
Hija mía, mi querida, mana, 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 no te eches a la mar, que la mar está en fortuna, mire que te va a llevar. Que la mar está en fortuna, mire que te va a llevar. Que me lleve y que me traiga, mana.
aman, aman, siete puntas de honor que me engluta de secreto para salvar del amor. Que me engluta de secreto para salvar del amor. Querida, mana, 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 no te eches a la mar, que la mar está en fortuna, mire que te va a llevar. Que la mar está en fortuna, mire que te va a llevar.
Mira que te va a llevar.
La chanson Ejame Querida, dans quatre versions en fait. La première version était due à Sarah Gorby, dans une version que je qualifierais de folk dans les années 1970. Ensuite, la version de Françoise Atlan, version très dépouillée. La version instrumentale de l'ensemble Accentus. Et puis, la dernière version un peu étonnante de l'ensemble Balkan Trad dans un album qui s'intitule The Sephardi Experience et qui mélange donc des instruments traditionnels avec un léger traitement électronique et puis des voix très balkaniques, je dirais, qui ressemblent un peu aux voix bulgares. Et c'est assez intéressant de juxtaposer ces quatre versions parce que ça pose la question de l'interprétation de ces chansons aujourd'hui, comme vous le voyez, à partir d'un même ensemble, d'un même air, d'un même matériel mélodique, on peut traiter de multiples façons ces chansons. On le voit à travers en fait la première version des années 70, qui est une simple harmonisation à la guitare. C'était un petit peu le revival de ces musiques dites populaires, mais qu'on arrangeait parce qu'on pouvait pas les jouer telles quelles. Et puis après, on a une surenchère un petit peu d'instrumentation avec une vision parfois médiévalisante, on va dire, ou parfois plus orientalisante, selon les cas. Marie-Christine, en quelques mots, que nous dit cette chanson ?
Bien, dans une société où la réussite sociale de la femme repose sur le bon mariage qu'elle va faire, elle raconte un dialogue entre une mère et une fille, la douleur de la mère et de la fille en voyant que ce projet a échoué et la jeune fille voyant son amour, son amour ruiné et sa vie ruinée propose de se jeter dans la mer et sa mère sur le bord essaye de l'en dissuader sans voir très bien ce qu'elle peut faire. C'est très poignant et en fait ça illustre tout à fait le proverbe judéo-espagnol où une mère dit « Hija hermosa sin mazal, nunca viniera nacer ». Une fille très belle, si elle n'a pas de chance, il eût mieux valu qu'elle ne naquît jamais.
C'est quand même assez terrible, cette angoisse maternelle que l'on sent de ces mères juives envers leurs filles. Comment on peut l'expliquer, en fait ?
Alors, la mère et la fille sont unies par un même destin. Toutes les deux, elles grandissent dans leur famille de sang où elles sont extrêmement choyées et elles vont être données à des familles étrangères pour lesquelles elles resteront toujours des étrangères. Alors ça, c'est l'affirmation de la suprématie des liens du sang. Alors, peut-être est-ce l'expérience Conversa et Marane qui pèse très lourd, là. Mais les judéo-espagnols sont très lucides et très pragmatiques et ils savent que le seul amour totalement désintéressé qui va jusqu'au sacrifice total est finalement celui d'une mère pour ses enfants ou celui de la famille de sang ou d'un père ou d'un frère pour ses frères et sœurs. C'est-à-dire que rien jamais ne sera aussi absolu que cet amour-là.
Oui, vous m'avez même dit, je crois, que la fille, parfois, on l'a vu dans une chanson, revient accoucher dans sa famille de sang. Et puis aussi, alors vous m'avez dit quelque chose qui est assez étonnant, c'est que dans certaines familles, on parlait en judéo-espagnol aux garçons et en français aux filles. Mais pour quelle raison ?
Alors bon, ben là, c'est une société multilingue. Hein. À partir de la fin du 19e siècle, on y parle judéo-espagnol, turc et français, avec des petites différences, des jeux de personnages. Et l'Alliance israélite universelle, là, scolarisait massivement les filles. Si bien qu'en fait, le français paraît comme la langue des femmes dans l'absolu, c'est-à-dire quelque chose de joli, d'harmonieux. C'est un petit peu comme la danse ou la broderie ou le piano.
C'est la langue de la culture.
C'est une langue de culture, c'est une langue policée, civile. Or, dans la famille d'accueil où elle va aller, la jeune femme devra se tenir convenablement tout le temps, avoir une juste distance, être respectueuse envers sa belle-famille. Et d'une certaine façon, ça lui apprend cette espèce de position un peu distanciée dans laquelle elle va devoir dérouler sa vie de femme.
Eh bien, dans la chanson suivante, nous allons justement entendre une mère donner des conseils à sa fille qui veut rejoindre son futur mari. Il s'agit de la chanson Madre, dame la licencia, intitulée également Dicho me habían dicho, dans une version qui est revisitée par le compositeur Alberto MC.
Dicho me habían dicho que mi amor está en Venecia, asentado en silla de oro, con una grande presencia. madre de melancolía, con mi amor me quiero ir, yo casada quiero ser, casadica quiero ser mi madre. Con aquel que amaba yo, viva él y no muera yo. Hija mía, si te llevas, echa ti no para mientes por los caminos que irás, no hay primos ni parientes, madre de melancolía, con mi amor.
Madre de melancolía, dans une version revue et presque corrigée par le compositeur Alberto MC. Donc cette chanson qui était connue, je crois, dans toute l'Anatolie, était exécutée notamment lorsqu'une jeune fille voulait se marier et elle s'en ouvrait à sa mère afin que celle-ci intercède auprès de son père. Et selon Alberto MC, cette chanson est représentative de l'époque hispanique par son langage, sa forme et son contenu. Et je parle d'Alberto MC, il faut préciser que c'est un compositeur qui est né à Kasaba en Turquie, tout près d'Izmir, en 1898, et mort à Paris en 1975, et qui a collecté, qui a noté les mélodies traditionnelles de ses chansons, mais les a mis en musique, a composé de véritables pièces très, très intéressantes, des petits bijoux, donc accompagnés par le piano, qui, lui, le piano ne joue pas du tout, j'allais dire, une mélodie judéo-espagnole traditionnelle, mais la mélodie elle-même est traditionnelle. En dehors de cette image de la mère angoissée pour cet enfant, la mère judéo-espagnole, comme toutes les mères, est également une source d'apaisement pour sa progéniture. Et le chansonnier judéo-espagnol, vous l'avez dit tout à l'heure, Marie-Christine, comporte un répertoire important de berceuses, dont nous allons entendre, pour finir cette émission, deux exemples. La première est une berceuse, encore un tout petit peu désespérée, parce qu'on ne se change pas totalement, puisque la mère berce son enfant tout en pleurant sa douleur. En gros, elle dit... Dors, dors, mon petit ange, créature de Sion, tu me demandes pourquoi je ne chante pas. Ils ont coupé mes ailes et ma voix s'est tue. Ah, quel monde de douleur, tu ignores la douleur. Marie-Christine, cette berceuse est quand même pour le moins mystérieuse. Qui est la cause de la douleur de cette mère avant qu'on entende cette chanson?
Alors, je pense que la mère est abandonnée par le père qui a une nouvelle amie.
Ah, problème effectivement majeur et très mal vécu, non seulement dans les familles judéo-espagnoles, mais dans toutes les familles en général. Donc écoutons cette chanson, Durme, Durme, mi Angelico, interprétée ici par Sandra Bessis.
Angelico, hijico chico de tu nación, criatura de Sion, ¿por qué nombre hay me demandas? ¿Por qué no canto yo? Acortaron las mis horas y mi voz a murió. Ay, qué mundo de dolor. No conoces la
La deuxième berceuse qui va clôturer cette émission est nettement plus optimiste. Une mère berce son enfant et lui imagine un avenir radieux. Il ira à l'école, apprendra l'alphabet, puis le commerce, puis des études brillantes et, bien sûr, finira docteur, comme il se doit dans toute famille juive. Une très belle interprétation de Françoise Atlan dans un de ses 3 CD publiés chez Buda Musique, Romanza Sephardis entre la rose et le jasmin, Durme, querido y chico. Belle chanson qu'il nous faut couper malheureusement avant sa fin, mais qui finit sur une note optimiste. Marie-Christine Bornvarol, quelques mots peut-être pour finir, deux mots, pas plus.
Alors, écoutez, je ne voudrais pas laisser l'impression qu'il s'agit d'une société abominable où les femmes souffrent beaucoup. Au contraire, grâce à toutes ces chansons, disons que les choses se passent extrêmement harmonieusement. C'est une société très équilibrée, très aimante et très harmonieuse en fait.
Comme quoi la musique adoucit finalement les mœurs. Eh bien, chers auditeurs, auditrices, notre émission touche à sa fin. Je vous rappelle que dès demain, vous pourrez la réécouter ainsi que toutes les émissions précédentes sur le site du Centre français des musiques juives, www.cfmj.fr. Notre prochaine émission aura lieu le 10 avril 2012 et nous clôturons cette série en parlant notamment des mères juives dans la chanson judo-arabe. Marie-Christine Bornvarol, merci infiniment pour votre présence et votre érudition qui nous ont éclairé tout au long de cette émission consacrée à la représentation de la mère juive dans la chanson et la société judéo-espagnole. C'était au micro Hervé Roten, David à la technique. Le Centre français des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Roten.
Le sugar!
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey, now I'm wild over honey child. Honey child's got me feeling funny.